Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Des vacances, c'est ça qu'il nous faut. Au sommet d'une montagne ou bien au bord de l'eau, à pied, à cheval, en voiture, à vélo. Des vacances, c'est ça qu'il nous faut. Au sommet d'une montagne ou bien au bord de l'eau, à pied, à cheval, en voiture, à vélo.
Bonjour, pas tout à fait déconfiné, pas tout à fait certain de ce que leur réservent les prochaines semaines ou les prochains mois. Beaucoup d'Européens ont pourtant déjà la tête en vacances. Mais où partir et comment ? Le tourisme, c'est un secteur clé de l'économie dans beaucoup de pays du continent et un secteur mis à l'arrêt par le Covid-19. Frontières fermées, liaisons aériennes suspendues, visites interdites. Aujourd'hui, on amorce la réouverture avec d'infinies précautions d'Istanbul à Reykjavik ou à Kashkaj. En Turquie, le grand bazar d'Istanbul, l'un des plus vieux marchés couverts du monde, est resté fermé plus de 2 mois, depuis le 23 mars jusqu'à début juin. Une longue période d'inactivité qui a beaucoup fragilisé ces quelques 3000 boutiques aux 30 000 commerçants. Ils attendent maintenant avec impatience les clients dans des conditions d'hygiène strictes. Mais les touristes étrangers qui font vivre le bazar risquent de ne pas être au rendez-vous cette année à Istanbul, à Nandlower.
Les volets roulants grincent un peu. Cela faisait 2 mois et demi qu'ils n'avaient pas servi. Entre le 23 mars et le 1er juin, le grand bazar d'Istanbul, ce labyrinthe où se bousculent jusqu'à 150 000 personnes par jour, n'était plus que vide et silence. Au bruit des grilles qu'on remonte, succèdent ceux du grand nettoyage. On astique les vitrines des bijouteries, on aspire la poussière accumulée sur les tapis, on époussette les sacs de contrefaçon. Le bazar reprend vie. Onur retrouve ses voisins. Il travaille dans un bureau de change, le seul type de commerce qui n'a jamais fermé malgré l'épidémie. Tous les matins d'avril et mai, Onur a donc parcouru les allées désertes du bazar. La réouverture le réjouit, mais ne le rassure pas.
Les clients nous téléphonaient et nous allions les chercher nous-mêmes aux portes du grand bazar. Évidemment, de voir ces allées vides, ça m'a fait beaucoup de peine. C'était totalement inédit dans l'histoire du bazar. Je suis heureux qu'il ait réouvert, j'espère qu'on ne vivra plus jamais ça. Mais j'ai quand même peur d'une deuxième vague de l'épidémie.
En 5 siècles d'histoire, l'immense marché couvert a subi des incendies, des tremblements de terre, mais jamais une telle fermeture pour cause d'épidémie. Le virus a privé de travail et donc de revenus plus de 30 000 commerçants. Pour Erhan Özgür, bijoutier, cela n'aurait pas pu tomber au plus mauvais moment.
L'épidémie a commencé au début de la saison des mariages et tous les mariages ont été annulés. Cela représente de grosses pertes pour nous, bijoutiers. Le point positif, c'est que nos clients sont à 80% des locaux, donc l'activité va repartir. Ce sera plus difficile pour d'autres commerces qui dépendent, eux, des touristes.
La plupart des 3000 boutiques ont rouvert, mais il manque en effet l'essentiel pour animer le vieux bazar, les touristes étrangers. Les vols internationaux ne reprendront pas au mieux avant mi-juin. Ömer, un grand brun au sourire affable qui tient une boutique de souvenirs, s'attend à des semaines d'inquiétude et d'ennui.
Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour l'instant. Il faut d'abord que les vols internationaux reprennent, que les Français, les Allemands, les Britanniques viennent en vacances chez nous pour que nos affaires reprennent. Je vais bien astiquer mon échoppe, boire mon thé et attendre.
Par réflexe, Ömer propose un thé. C'est une tradition au bazar. Aucune conversation ne se noue et aucune vente ne se conclut sans un verre de thé turc. L'espace d'un instant, pourtant, Ömer semble hésiter. Peut-on encore offrir un thé en cette période d'épidémie ? Il se reprend et plaisante.
Regardez, les vendeurs de thé ambulants sont là. Au pire, on peut y verser un peu de désinfectant.
Au grand bazar comme ailleurs, le virus impose de nouvelles habitudes. Prise de température à l'entrée, port du masque obligatoire, un seul client par boutique, spray désinfectant à tout va. À l'inverse, c'en est fini des grandes embrassades entre voisins d'allée et des poignées de main pour négocier un prix. Hachim Gureli, vice-président de l'association des commerçants du grand bazar, concède que l'endroit a perdu un peu de son sel.
Normalement, entre amis du bazar, on se prend dans les bras. Là, on ne se serre même pas la main, on se dit bonjour de loin. C'est triste, mais il va falloir s'y faire pendant un certain temps.
Côté affaires, ce vendeur de tapis au crâne rasé et aux sourcils noirs en forme d'accent circonflexe déplore déjà une année perdue.
Les mois passés ont été difficiles. 60% des commerçants du bazar sont locataires de leur boutique. Ils ont continué de payer un loyer alors qu'ils n'ont rien gagné pendant 2 mois et demi. Normalement, le Grand Bazar est un endroit assez imperméable aux difficultés économiques de la Turquie, aux crises, du moment que les touristes viennent. Là, à mon avis, la saison est morte. Il faudra attendre l'année prochaine.
Ouz, un marchand de tapis, veut pourtant rester optimiste.
Les gens se sont habitués à cette nouvelle norme. Les barrières psychologiques sont tombées. Tout le monde a appris à vivre avec le virus. Quelqu'un va m'acheter un tapis, moi je vais acheter autre chose et la terre continuera de tourner. C'est pour ça que les gouvernements décrètent le déconfinement, pour que la vie reprenne son cours et pour que l'activité reparte.
Quant à Joshkun Güler, orfèvre et fils d'orfèvre au Grand Bazar depuis 40 ans, il préfère relativiser, conscient d'avoir vécu un moment inédit de la longue histoire du bazar.
Je le raconterai à mes petits-enfants. Ça aurait été une période difficile, mais aussi une grande leçon. D'un point de vue sanitaire, ça nous a rappelé à tous à quel point l'hygiène était importante. D'un point de vue économique, avec la perte de revenus que nous avons subie, cette crise nous a aussi rappelé la valeur de notre travail.
Les commerçants du Grand Bazar, s'ils attendent ardemment que les affaires reprennent, sont aussi bien conscients du fait qu'une affluence de clients présenterait de toute façon un risque pour leur santé. Au moins 7 de leurs collègues ont succombé au Covid-19.
Le 15 juin, l'Islande s'apprête à rouvrir son pays aux touristes de l'espace Schengen dans un premier temps. Le pays compte jouer sur le sentiment de sécurité qui règne sur ces terres volcaniques et glacées où seulement 8 cas ont été diagnostiqués au mois de mai. Mais pas seulement, pour attirer de nouveau les touristes, le gouvernement prévoit une politique ambitieuse. C'est un reportage de Jérémy Richard.
3 milliards de couronnes, soit 20 millions d'euros, c'est la somme que l'Islande va dépenser pour relancer le tourisme, secteur vital de son économie. Une première moitié va permettre de distribuer à chaque résident de 18 ans et plus un bon d'achat électronique d'une valeur de l'équivalent de 33 euros. Skarpiedin Perk Steinason est directeur de l'Office du tourisme islandais.
Comme toutes les autres nations du monde, cet été, nous encourageons les gens à privilégier le tourisme national. Dans la plupart des pays, le marché intérieur est significatif, disons environ la moitié du tourisme total. Mais ici en Islande, il est considérablement plus petit, donc l'importance du marché local est moindre. Mais pour autant, ça compte.
La deuxième moitié de ces 20 millions d'euros va servir à promouvoir l'île boréale sur ses marchés clés que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et la France, qui représentent plus de la moitié des touristes foulant la terre de glace et de feu. Sigridur Dök Kudmundotir est chef de projet chez Islandstova, l'agence semi-publique en charge de l'initiative.
Nous menons ce type de campagne depuis 10 ans pour promouvoir l'Islande, car bien sûr, il faut toujours maintenir le dialogue. Mais ici, c'est de très loin la plus grande campagne marketing en termes de moyens financiers que nous ayons eu.
L'agence n'avait obtenu en moyenne qu'un quart de cette somme pour ses campagnes jusqu'ici. Mais si l'Islande met le paquet, c'est pour tenter de limiter l'impact du Covid-19 sur un secteur qui porte son économie mis à bout de bras ces dernières années. Les premiers touristes sont attendus à partir du 15 juin, date à laquelle l'île Nord-Atlantique rouvre ses frontières aux pays membres de l'espace Schengen. L'arrivée à l'aéroport international de Keflavik, principal point d'entrée en Islande, ne sera toutefois pas sans restriction puisque les voyageurs, désireux de s'aventurer sur sa terre volcanique, auront le choix entre un test de dépistage au coronavirus, présenter un certificat médical attestant d'un résultat négatif à un test antérieur récent ou une quarantaine de 14 jours. Un travail gigantesque attend les autorités sanitaires et notamment l'hôpital universitaire d'Islande, dont le laboratoire procédera à une partie des tests. Páll Matthíasson est le directeur.
La bonne chose dans le choix de ce timing, c'est qu'en réalité, peu de gens se déplaceront. Donc cela nous donne l'opportunité de calibrer la logistique autour de ce projet pour essayer de faire en sorte que les personnes infectées et contagieuses ne propagent pas cette infection.
L'État islandais prendra dans un premier temps à sa charge le coût des tests estimé à minima à plus d'un million d'euros sur la base de 500 arrivées quotidiennes contre 6500 en temps normal. Mais à partir du 1er juillet, les voyageurs qui choisissent cette option devront débourser 100 euros. Si la réouverture du pays mi-juin semble faire consensus, ces tests aux frontières qui seront ensuite étendus aux autres points d'entrée, aux aéroports de Reykjavik et Akureyri dans le nord ainsi qu'au port de Seyðisfjörður dans l'est, font réagir. Skarphéðinn Steinarsson de l'Office du tourisme islandais n'est pas convaincu.
Cela pose des problèmes pratiques. Ça ralentit le voyage, ça pèse sur tout le monde et ça coûte beaucoup d'argent.
Pour l'hôpital universitaire d'Islande et ses équipes que dirige Páll Matthíasson, c'est un challenge bien que seulement 50 000 touristes soient attendus pour ces 6 derniers mois de l'année contre plus d'un million initialement.
Rouvrir le pays à de nombreux touristes est un défi. Si nous devons gérer des personnes infectées, le risque pour l'hôpital, c'est que cela arrive pendant l'été, au moment où les équipes sont en vacances et se reposent après un printemps agité.
Au plus fort de l'épidémie en Islande, l'hôpital a dû gérer 43 patients infectés au Covid-19, en même temps, soit environ la moitié de ses capacités totales. Ces derniers jours, des voix au sein de la communauté médicale islandaise se sont également élevées pour remettre en cause l'efficacité des tests aux frontières, un système trop perméable. Vrai, en partie, répond Kauri Stefansson, PDG de Decode Genetics, société qui procède aux tests massifs parmi la population générale asymptomatique.
Je suis d'accord avec l'idée que certaines personnes passeront entre les mailles du filet. Ce ne sera pas un système parfait, mais d'après l'étude des anticorps et malgré les tests massifs que nous avons faits, nous n'avons intercepté qu'un peu moins de la moitié des personnes réellement exposées en Islande. Mais ça a suffi.
Avec plus de 17% de sa population testée, le plus important au monde en proportion, l'Islande recense un peu plus de 1800 cas sur son territoire pour seulement 10 décès. Elle va donc ouvrir prudemment à ses indispensables touristes et jouer la carte du sentiment de sécurité qui règne sur l'île où le Covid-19 a quasiment disparu.
Le 5 juin dernier, le Portugal est estampillé Safe Travels. C'est le premier pays européen à recevoir ce label décerné par le World Travel and Tourism Council. C'est une association qui regroupe plus de 200 entreprises parmi les plus importantes au monde travaillant dans le tourisme. Il faut savoir que depuis la fin du mois d'avril, les professionnels du secteur au Portugal réfléchissent à la mise en place d'un protocole sanitaire, d'une garantie clean and safe, propre et sûre, pour relancer le tourisme. Un secteur clé de l'économie, les recettes du tourisme comptent pour 10% du produit intérieur brut environ. Notre correspondante Marilyn Darcy s'est rendue à Caixcaix, une petite station balnéaire à l'ouest de Lisbonne qui met tout en place pour sauver la saison.
Alexandra a retrouvé sa jovialité. La patronne du petit snack, la Condessa, vient de vivre une période difficile.
Déjà en temps normal, un resto, c'est une grande préoccupation. Il faut payer le personnel, les fournisseurs. Pendant la crise, je me couchais à 3 heures du matin et me levais à 8 heures pour tenter de résoudre le problème. Essayer de faire des plats à emporter, tout pour ne pas laisser mon affaire péricliter. Sans la rue jaune, c'était la fin.
Caixcaix a autorisé les restaurants à occuper 3 rues du centre-ville que la mairie a peint en jaune. Les établissements peuvent ainsi contourner la réduction de la moitié des convives en raison des mesures sanitaires. Ici, un loyer commercial oscille entre 600 et 6000 euros par mois. Avec de telles charges, Alexandra allait abandonner.
J'étais sur le point de fermer définitivement le restaurant. Il est très petit, il n'a que 3 tables. Là, avec la rue piétonne délimitée, je peux installer 24 places. Et avec les mesures d'hygiène que l'on applique, c'est encore plus sûr de manger dans la rue.
À l'hôtel Albatros, l'un des fleurons de la jolie station balnéaire, le directeur Frederico Simões de Almeida a obtenu le label Clean and Safe, propre et sûr, du tourisme du Portugal. Pour l'hôtelier, un incroyable défi à relever.
Pour le nettoyage des chambres, lorsque le client part, c'est une équipe qui fait uniquement ça, qui entre en action. Et là, c'est masque, visière, chaussures spéciales et même tablier de protection. On dirait une équipe nucléaire, c'est surréaliste. On va tout faire pour que les clients ne croisent pas les employés, car ça fait un peu peur, hein. Ce n'est pas ce que l'on veut.
Le label propre et sûr est jugé indispensable malgré l'énorme contrainte qu'il représente.
Le Portugal fait tout pour que les opérateurs touristiques, pas seulement les hôtels, disposent du label Clean and Safe. Après l'ouverture de l'établissement, on sera inspecté. Nous allons tous ouvrir à différents moments, donc je crois que les contrôles gouvernementaux vont tous pouvoir se faire.
Après 3 mois de chômage partiel pour 87 employés et 0 recette, l'Albatros et son charme d'antan espèrent reconquérir une partie de la clientèle à 95% étrangère. Dans le restaurant, tout a été également repensé. Mais les clients se font rares, malgré l'hygiène rigoureuse. Le chef strasbourgeois, Frédéric Breitenbacher.
Surtout, redonner de la confiance aux gens. Parce que les gens, avec toutes ces 2 derniers mois, ça n'a pas été facile. Parce que ça a été un choc un peu pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ça. Je pensais surtout montrer que c'est sécurisant d'aller dans un restaurant. On a la plage à côté, elle est pleine. Le risque est sur la plage, le risque est partout maintenant. Il faut faire confiance aux professionnels surtout.
Cache-Cache a pris des mesures importantes pour tenter de sauver la saison balnéaire. De la rue jaune des restaurants jusqu'aux distributeurs de masques à prix accessible sur la voie publique, en passant par l'aménagement des jardins pour dévier du monde des plages. Des plages essentielles pour une station balnéaire et où il faut respecter des règles d'occupation. Louis Pica est concessionnaire de la petite plage d'Agement et Taïch. Ce sera 3 mètres entre les parasols et les transats. Il faudra gérer la clientèle. Louis compte sur l'application InfoPraia, InfoPlage, proposée par le ministère de l'Environnement. Elle permet de connaître le taux d'occupation des plages.
C'est vraiment une super idée cette application. C'est un bon moyen pour que les estivants sachent ce qui se passe chaque jour et d'heure en heure. Ce n'est plus seulement indiquer la température de l'air ou de l'eau. On espère que ça va bien marcher. Il faudra que les données soient relevées par des indépendants et non pas par les concessionnaires ou les nageurs sauveteurs.
Des drapeaux tricolores à l'entrée des plages, des contrôles policiers, des règles d'hygiène strictes. Tout est fait par les autorités et par les professionnels pour rassurer. Il ne manque plus que les touristes pour sauver la saison.
M to the A to the S to the K. Put the mask on the face just to make it next day. Feds be hawking me, jokers be stalking me. I walk the street and camouflage my identity.
Ils sont déjà devenus le symbole de l'épidémie de Covid-19, les masques. Ils sont toujours obligatoires dans certains lieux publics en Tchéquie et déjà exposés au Musée National Tchèque à Prague, Alexis Rosenzweig.
Il y en a de toutes les couleurs et de tous les styles, dont un multicolore fait à partir d'un plan des lignes du métro de Prague dessiné par un enfant autiste. En tout, une 30aine de masques sont exposés à l'initiative de Miroslava Burjanova. Elle est en charge des collections de mode du Musée National Tchèque.
L'un des objectifs du musée national est de documenter l'époque dans laquelle nous vivons. Mais étant donné la production de masse, ce n'est pas toujours facile de décider quels articles devraient être inclus dans nos collections et lesquels n'en valent pas la peine. Nous avons décidé de sélectionner et de conserver uniquement les éléments typiques d'une époque donnée. Le choix des masques était évident car ils sont devenus un symbole de notre temps, un symbole de solidarité mutuelle ainsi que de la compétence des femmes tchèques.
Le masque est effectivement devenu le symbole d'une société civile qui a su se débrouiller seule. Quand les dirigeants de la Tchéquie ont imposé très tôt le port obligatoire des masques dans les lieux publics, bien que les magasins étaient tous en rupture de stock. L'actrice Dagmar Havlova, veuve de l'ancien président Havel, a été parmi les premières célébrités à faire marcher la machine à coudre pour fabriquer des masques et les distribuer aux personnes en première ligne.
Mes masques préférés dans notre exposition sont ceux fabriqués au tout début de l'état d'urgence, mi-mars, pour ceux qui en avaient le plus besoin. Ce que j'admire le plus dans les masques artisanaux, c'est leur précision. Ça me donne l'espoir que cette tradition presque oubliée de couture à domicile, maintenue par des générations de mères et de grands-mères, pourra continuer.
Le jour de l'ouverture de cette nouvelle exposition à Prague a coïncidé avec la levée de l'obligation de porter un masque dans la rue. Mais les Tchèques doivent toujours en porter un dans les lieux publics fermés, donc pour l'avoir, il faut toujours être masqué.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur le site de RFI.fr ou vous abonner au podcast de l'émission sur votre plateforme de diffusion préférée. Demain, vous retrouvez Léa Lisa Westerhoff pour une émission très en prise avec l'actualité, racisme et police. À bientôt.